Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
Est un vilain défaut.
S'ils sont amateurs, s'ils débutent, leur premier écueil, maintenant, ça peut paraître surprenant pour des vieux routiers de la généalogie, mais souvent, le premier écueil, c'est le XXe siècle.
La jolie généalogie.
Le grand-père qui a fait 14, ou même celui de 40, s'il est mort pendant les combats, constitue parfois une première barrière.
RTL.
Comment puis-je retrouver mon ancêtre, où dois-je aller chercher ?
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un salon très attendu qui s'ouvre vendredi à Paris, le salon de la généalogie. On rêve tous de retrouver nos ancêtres, de savoir si l'on a des rois, des saints ou des voyous dans notre arbre généalogique. C'est Marie-Odile Merniac qui nous sert de guide sur RTL. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Marie-Odile.
Vous êtes une habituée de la curiosité, vous êtes historienne généalogie. C'est une passion française, la généalogie ?
Pas que français, il y a vraiment beaucoup de pays qui sont passionnés par la recherche de leurs ancêtres. On descend tous en quelque sorte, je vais faire le lien avec l'heure d'avant de super-héros, oui. Puisqu'ils ont survécu aux guerres, aux pestes, et puis qu'on est là pour parler d'eux.
Je disais passion française, parce que j'ai découvert en préparant l'émission que c'était vraiment l'un des loisirs préférés des Français.
Oui, le troisième après le jardinage et le bricolage. Donc on a plus d'adeptes que de passionnés de foot bientôt.
On sait combien de Français ont déjà entrepris des recherches en généalogie.
10 millions sont inscrits soit aux archives départementales, soit sur des sites internet. Donc, il faudrait rajouter encore ceux qui ne se sont inscrits nulle part, mais qui en font comme ça, chez eux, en semaine, le week-end. C'est certainement beaucoup plus que 10 millions.
Marie-Odile Merniac, depuis quand parle-t-on de généalogie ?
Depuis la nuit des temps, depuis que l'homme
depuis
existe,
toujours.
En quelque sorte, puisque c'est retracer des filiations. Dès qu'il y a une génération qui suit une autre, on commence.
Mais ce modèle de l'arbre généalogique, il naît quand ? L'arbre ?
Alors,
c'est une expression ?
Non, au départ, en fait, en France, par exemple, ou dans toute l'Europe, on dessinait des diagrammes à médaillons. Et puis l'arbre, c'était l'arbre de Jessé, une forme biblique. Dans la Bible, Jessé, qui est le père du roi David, a un rêve et voit pendant la nuit une grande tige qui sort de lui, jusqu'à donner une fleur en haut de l'arbre qui est le Christ. C'est un symbole donc donné dans la Bible. Et à partir du XIIe siècle, on commence à voir cette représentation de l'arbre comme dessin filiatif. On place David, on place les différentes générations entre Jessé et le Christ sur les vitraux des églises. Et puis ensuite, les rois trouvent que c'est assez prestigieux de s'associer un petit peu visuellement, d'associer leur propre généalogie à celle du Christ.
Bien
et
sûr,
ils se mettent eux aussi à se représenter, mais à partir du XVe siècle seulement, il faut 3 siècles avant qu'ils osent franchir le pas, à se représenter sous forme d'arbre, enfin à représenter leur lignée sous forme d'arbre. Et puis maintenant, nous avons tous...
Dans le langage commun, bien sûr.
Voilà, des arbres de Jessé, enfin l'équivalent pour nos propres généalogies.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un outil de propagande, le mot va peut-être choquer, mais pour certaines religions, parce que créer ce lien, prouver ce lien par un arbre généalogique, c'est pas neutre, évidemment. C'est pour frapper les esprits ?
Non, là, en fait, dès que l'homme s'inscrit dans le temps, donc la façon la plus simple de définir une chronologie et de mesurer le temps,
oui,
c'est de tracer des généalogies. Donc on utilise celle des rois, on utilise alors symboliquement celle des dieux, mais de toute façon, la généalogie, c'est vraiment le point de départ dans toutes les civilisations d'une mesure chronologique du temps qui passe.
On en retrouve la trace dans d'autres civilisations, je ne sais pas, par exemple la civilisation égyptienne.
Oui.
Il y a des arbres généalogiques qui sont à peu près construits de la même façon. C'est le même principe, en tout cas ?
C'est le même principe. Alors, pas sous forme d'arbre,
oui,
mais la cascade, la succession des générations comme mesure du temps, oui.
Mmh.
Oui.
Est-ce qu'on sait quel est l'arbre généalogique le plus ancien ?
Le plus important.
Le plus important.
Le plus fouillis.
Le plus complet.
Alors, on parlait de la Bible il y a quelques instants, on pourrait dire qu'on descend tous d'Adam, et dans ce cas,
ah bah oui,
c'est celui-là le plus ancien. Sinon, il y a effectivement un passionné qui a mis en ligne maintenant l'arbre généalogique de Confucius, ce qui représente quand même 2500 ans d'arbre et 80 générations.
Bon. on a du mal même à visualiser ce que ça représente.
C'est un arbre qui est planté dans son jardin ou c'est énorme en termes de papier et de parchemin pour stocker tout ça.
Voilà. Mais en Asie, c'est vrai qu'ils ont régulièrement tenu à jour des listes de descendants de Confucius. Si l'on revient en France, on a un site. Au départ, c'était sous forme papier, là aussi. Maintenant, c'est trop important, c'est sous forme numérique, qui s'appelle Capédia et qui recense tous les descendants de Hugues Capet. Donc là, ça fait en gros un millénaire. Donc, c'est plus modeste que Confucius, mais il y a quand même 700 000 personnes maintenant qui sont recensées. Et on y trouve Giscard et Mitterrand, par exemple.
Qui descendent d'Hugues Capet.
Oui, comme descendants d'Hugues Capet. On y trouve Bernadette Chirac, on y trouve François Fillon, on y trouve Ségolène Royal. Et puis, pour sortir un peu de l'hexagone, George Bush, Barack Obama, Céline Dion, etc. Enfin, vous pouvez vous amuser à aller voir sur le site les indications qu'il donne. Pourquoi pas, je n'ai pas cherché si... Parce que tout n'est pas accessible. Il faut ensuite acheter le logiciel. Je précise que je n'ai pas d'action chez eux. Mais je n'ai pas pu chercher si vous deux étiez des descendants d'Hugues Capet.
Oh bah, sûrement. Hein, franchement. Alors là, vu la classe naturelle de Sylvie, je vois mal comment
Merci,
ça serait possible.
Merci, forcément une capétienne. Jusqu'à quand on peut remonter dans l'histoire pour trouver des traces de nos ancêtres? Jusqu'à quel siècle? En France?
En France, oui, parce que c'est variable selon chaque pays. François Ier, en 1539, a créé l'équivalent, l'embryon de l'état civil actuel. Donc, si les documents ont été conservés, ce qui est... Là, il faut nuancer quand même selon les régions, mais s'ils ont été conservés, on peut remonter donc jusqu'au début des années 1500-1530. Le registre de naissance, de mariage et de baptême le plus ancien en France date des années 1400. En Saône-et-Loire, on n'avait pas attendu François Ier pour commencer à enregistrer les gens.
Mais quand vous dites si les documents étaient conservés, mais par qui, Marie-Odile Merniac, ces documents très anciens? Par les familles? Parce que où on parle encore des mairies peuvent encore avoir ces documents?
Oui, alors en fait, au départ, c'était tenu par le clergé, puisque la paroisse était l'entité administrative de l'époque. Elle servait aussi bien d'entité religieuse que administrative, que fiscale. Voilà, la paroisse, c'était le noyau qui composait tout le territoire. Et les curés enregistraient les naissances, mariages, décès. Une fois, j'avais un généalogiste qui m'avait dit « Je ne pourrais pas remonter avant la Révolution, puisque ma famille est athée. » Mais on ne demande pas aujourd'hui à quelqu'un s'il aime les fonctionnaires et pour aller enregistrer la naissance de son fils ou de sa fille en mairie. Bon, donc autrefois c'était pareil. De toute façon, on enregistrait les enfants puisque c'était l'acte de baptême qui servait de preuve pour l'âge, par exemple, pour certaines fonctions.
Marie-Odile Merniac, il y a un avant et un après Révolution française en matière de généalogie. C'est une cassure, la Révolution?
Pas vraiment. C'est une cassure politique, bien sûr. Pour la généalogie, non. On passe des registres paroissiaux que j'indiquais aux registres d'état civil qui sont tenus par les maires, mais avec les registres paroissiaux qui obligatoirement sont donnés aux mairies. Donc, on retrouve une continuité dans les mairies de François Ier jusqu'à nos jours avec les registres.
Alors, les noms de famille nous semblent familiers, et pourtant... Marie-Odile, ils n'ont pas toujours existé. On remonte dans le temps, jusqu'au XIe siècle.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est un salon qui va drainer beaucoup de monde à la mairie du 15e arrondissement de Paris vendredi et samedi, le salon de la généalogie. On découvre cette passion qui mobilise chaque année des millions de Français avec notre invitée Marie-Odile Merniac, qui est historienne et généalogiste. Les noms de famille font partie de nous et pourtant Marie-Odile, ils n'ont pas toujours existé, ces noms de famille, c'est-à-dire qu'on s'est appelé seulement avec des prénoms à une époque?
Voilà, uniquement le prénom au Moyen-Âge, c'était ça. On aurait juste dit Sidonie, on aurait juste dit Thomas. On n'avait rien qui suivait ce nom de baptême, disait-on à l'époque. Et puis, à un moment donné, la population augmentait au Xe siècle. On n'avait pas encore les grandes pestes. C'était une situation un peu euphorique en termes de population et on a commencé à avoir trop de Jean, trop de Louis, trop de Thomas, trop de Sidonie. Il fallait pouvoir les distinguer les uns des autres et on a rajouté un surnom. qui d'abord était uniquement individuel et qui ensuite est devenu héréditaire, s'est transmis de génération en génération. Donc un surnom individuel à partir du Xe siècle, un nom de famille à partir du XIIe, XIIIe en moyenne en France.
Donc dans une recherche généalogique, connaître l'origine d'un nom de famille, c'est une bonne base de départ. C'est souvent... Tiens, par exemple, est-ce que c'est une indication géographique, le nom de famille?
Alors, pas si vous vous appelez Martin. Là, D'accord. C'est fini. Il y en a dans tous les départements au 19e, sauf, je crois, en Corse. Et Oui. Encore, il faudrait vérifier. Mais sinon, si le nom est un petit peu rare, oui, c'est une bonne base de départ, ou du moins une bonne base à utiliser si on perd une piste généalogique. Parce qu'on se dit, le nom vient de là. Voilà, je vais repartir dans cette région pour chercher la piste.
Alors, qu'est-ce qui permettait de donner un nom de famille? On les créait comment? Par exemple, est-ce qu'on utilisait le métier d'une personne?
Oui, le métier, le prénom de son père. Très souvent, on s'appelait Jean-Martin, c'était Jean, fils de Martin. Donc, le métier, la localisation du pont, du bois. Et puis, une caractéristique physique ou morale aussi.
C'est-à-dire
Courtois, Le Petit, Bonnec, par exemple, qui est
pourquoi
aussi...
Pourquoi Bonnec, ça veut dire quoi, Bonnec?
Vous savez très bien, Thomas, on en a déjà parlé à ce micro. Vous moquez de moi depuis des mois.
Pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, je ne peux pas m'empêcher
régalons-nous.
De poser la question à Marie-Odile Merniak.
Parce que tous les noms de famille étaient donnés dans les langues régionales, dans les langues de leur région de départ. Donc Bonnec, on ne devine pas spontanément ce que ça veut dire, puisque c'est du breton, mais ça désignait quelqu'un de carré d'épaule.
De trapu, bah, quand on me voit, c'est... Je mérite bien mon nom de famille.
On voit que la lignée a bien évolué.
C'est ça. 800 ans au passé.
Marie-Odile Merniak, il y a certes, vous évoquez ces noms de famille comme Bonnec qui sont vraiment liés à la région où ils naissent. Il y a des patronymes spécifiques dans d'autres régions qui sont vraiment liés aux langues, aux patois locaux. C'est-à-dire que chaque région de France, finalement, a son lot de noms de famille régionales.
Oui.
Régionaux.
On parlait des métiers tout à l'heure, le forgeron, il y en avait dans chaque village. C'était quelqu'un de très important. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a été nommé forgeron comme nom de famille.
Mais dans plein de patois différents.
Dans plein de patois différents, ce qui fait qu'il existe plus de 600 variantes, 600 noms de famille différents qui veulent dire forgeron en France.
Par exemple, vous en avez quelques-uns.
Par exemple, Le Goff en Bretagne, pour rester là-bas, oui. Ou bien Schmitt en Alsace, Lefebvre dans le Nord, Fort, Fabre dans le Sud. On pourrait multiplier les exemples, chaque région a ses façons de désigner ce métier-là.
Alors, on a bien compris, on parle de généalogie, que l'origine de ces noms de famille, c'est une façon aussi d'avancer dans une recherche généalogique. Mais alors, on va s'amuser un petit peu, parce que pour les auditeurs d'RTL, il faut expliquer que lors de la conférence de presse de rentrée, Marie-Odile Merniak, vous avez accompagné et vous vous étiez livré un petit jeu qui était de chercher l'origine des noms de famille de nos animateurs préférés. Alors, Laurent Ruquier, par exemple, ça vient d'où, ce nom, Ruquier?
De ruc, une ruc en patois picard, c'était une ruche. Donc il descend d'une famille d'apiculteurs. Voilà, c'était celui qui élevait, qui avait des rucs et qui élevait des abeilles.
Et Jacques Pradel, c'est quoi l'origine de son nom de famille?
Pradel, c'est le pré.
Ouais.
Donc ça m'avait beaucoup vous fait rire, puisque précisément, on ne perd jamais personne de vue dans un pré.
Lui qui présentait Perdu de vue il y a quelques
exactement.
Années sur TF1. Stéphane Bern.
C'est l'ours.
Bern, c'est l'ours.
Oui. Et Stéphane signifie...
Pourtant, il n'a rien à l'ours, Stéphane.
Alors, Stéphane signifie couronne. Donc, l'ours, c'était l'ours mythologique des légendes germaniques. Donc, avec la couronne, c'est quand même assez prestigieux. C'est presque royal.
On continue le tour de nos animateurs. Flavie Flamand. Ça veut dire quoi, Flamand? Ça vient d'où?
Des Flandres. On le devine, on parle encore des Flamands aujourd'hui pour désigner ceux qui sont de cette région ou de ce pays. Et puis Flavie, ça désignait à la fois un prénom romain, une couleur blond-roux de cheveux. Voilà, un prénom et un nom associé qui évoquent bien une origine.
Et notre matinalier préféré, Yves Calvi, ça vient d'où? Yves Calvi plutôt.
Calvi désigne un mont chauve, dénudé.
C'est pour ça que j'ai un peu en avance. J'avoue.
Yves, si tu nous écoutes.
Mais alors, on peut considérer que Calvi, c'est peut-être déboisé, mais Yves ne l'est pas du tout, puisque Yves, ça évoque en langage celtique l'if, qui est donc un arbre toujours vert et qui était symbole d'immortalité.
Ah bah ça, il est toujours c'est vert, notre Yves Calvi. Donc alors, ça lui va très très bien.
On a parlé de mon nom de famille, on a bien ri. Bon, le nom de famille de Thomas, il est pas mal aussi, il est même très classe. Hugues.
Hugues signifie intelligence, ah ben effectivement. Voilà.
Merci, Sidonie, voilà.
De des mois cette, de souffrance grâce à Marie-Odile Merniak. Merci.
Information. Donc ça, c'est un premier axe, on va dire, de recherche pour se lancer dans la généalogie. On va en trouver d'autres, en découvrir d'autres grâce à vous, Marie-Odile Merniak. Vous allez nous donner tout simplement des conseils pour se lancer dans une recherche généalogique. C'est tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France.
Faire de la généalogie, c'est chercher l'histoire de sa propre famille.
La curiosité est un vilain défaut.
10 millions de Français ont commencé leur arbre parce que la recherche est aussi passionnante qu'un bon roman. Ça peut se pratiquer seul ou en famille. Le record à battre est une réunion de 5000 cousins en 2012.
Jusqu'à 22h,
la généalogie permet de retrouver les noms de ses ancêtres, leur métier, leur maison, leur histoire à travers les siècles, les secrets de famille et des cousins tout autour du monde.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et oui, on a la curiosité, ce soir dans la curiosité, d'apprendre à faire notre arbre généalogique. On en parle avec notre invitée, l'historienne Marie-Odile Merniak. Vous allez nous donner des conseils ici pour les auditeurs qui ont envie de se lancer dans cet arbre. On commence par quoi? Parce que c'est quand même un gros boulot. Je demandais tout à l'heure s'il fallait 7 ans pour bosser là-dessus.
Plutôt 7 jours que 7 ans.
Ah, plutôt 7 jours, d'accord. On commence par quoi? Les témoignages des proches?
Alors,
de la famille?
7 jours, c'est si on remonte en ligne directe une seule branche. C'est-à-dire, on se dit, je prends mon nom et hop, je remonte 5 siècles en ligne directe.
5 siècles en 7 jours? Ça va?
Oui,
c'est
ça
rapide.
Va. Oui, c'est assez rapide.
Et comment vous faites? Vous êtes magicienne?
Non. Il y a la magie internet qui marche. Et puis, c'est vrai qu'en France, les archives sont bien conservées. Et. On fait vite si on n'a pas d'ancêtres abandonnés, si on a un peu la famille de Monsieur Tout-le-Monde en ligne directe, 7 jours, ça suffit.
Et une famille dans la même région aussi, j'imagine.
Et dans la même région. Alors après,
ça aide.
On connaît tous des généalogistes qui sont passionnés depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, et on se dit c'est interminable. En fait, c'est parce qu'ils cherchent tous leurs grands-parents, tous les arrière-grands-parents, etc. Donc, à la 15e génération, ça fait quand même, simplement à la 15e, 2000 et quelques ancêtres à trouver. Et donc là, c'est nettement plus long. On n'est plus dans les 7 jours. Mais c'est tellement passionnant qu'une fois qu'on a mis le doigt et commencé un petit peu, qu'on a fait une branche pendant 7 jours, et là, on continue.
Ça ne s'arrête pas.
Et on commence par chez soi.
Oui, alors c'est ça, le premier conseil, c'est de poser la question à ses proches, à ses parents, ses grands-parents, s'ils sont toujours vivants.
Oui, de retrouver, alors de questionner les proches, ça effectivement, parce que après leur disparition, leurs souvenirs seront perdus. Voilà, les photos, les papiers de famille, les souvenirs des proches, on rassemble tout ça. Et on commence à partir de ça, puisque, rappelons-le, l'état civil n'est pas consultable, l'état civil contemporain. Donc, on ne peut commencer à consulter des actes de naissance, de mariage, qu'au-delà de 75 ans. Donc, 75 ans, maintenant, on vit presque tous centenaires, c'est rapide à passer ce cap, mais il faut le passer avec ce que l'on a chez soi et les parents proches.
Et alors ensuite, les autres conseils, c'est quoi? De l'organisation, j'imagine? De la rigueur?
De la rigueur, parce qu'autrefois, les prénoms étaient quand même moins variés qu'aujourd'hui. Donc, vous aviez un garçon sur 10 qui se prénommait Jean. Si votre nom de famille est Martin, je reviens encore à Martin, le nom de famille le plus porté en France, des Jean Martin dans un village à une même génération, vous pouvez en trouver une bonne vingtaine. Lequel est le vôtre?
Alors, donc, comment on fait?
Ben, faire très attention, bien vérifier, trouver déjà les actes de mariage. C'était pratique, tout le monde se mariait autrefois. Donc on retrouve les actes, on retrouve les noms des parents, et puis on voit bien qui sont les frères, qui sont les sœurs, on note tout pour éviter justement de se tromper d'ancêtres en remontant le temps.
Marie-Odile Merniak, Internet, c'est à la fois un outil génial. Est-ce que ça peut être un piège pour les généalogistes? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter sur Internet?
C'est un piège parce qu'Internet donne de la vitesse. On ne fait plus de la recherche en prenant le temps comme autrefois, en feuilletant les pages. Internet accélère tout.
Donc on vérifie pas toutes les infos.
On peut trouver très vite, ouais. Et ne pas tout vérifier ou ne pas prendre le temps de vérifier. Et on peut vite partir sur une fausse piste. Mais c'est le seul danger en fait.
Vous avez comme ça des exemples de, de généalogistes débutants ou amateurs qui ont cru qu'ils avaient trouvé une branche familiale, qui ont commencé à raconter, puis se sont rendus compte qu'ils étaient allés trop vite et qu'ils s'étaient perdus en route, c'est ça ?
Oui, oui, ça arrive assez souvent. En tout cas, ceux qui débutent peuvent assez facilement se tromper de branche s'ils ne font pas attention. Je crois, par exemple, que pour la généalogie, Internet n'existait pas. Du président Pompidou, il y a trois généalogistes qui avaient fait des recherches, des vieux messieurs érudits dans la région de naissance du président Pompidou, et qui avaient trouvé trois arbres différents, parce qu'ils avaient essayé de faire vite après son élection. Donc voilà, il faut toujours prendre le temps, que ce soit du papier ou de l'Internet.
Alors, pour ne pas se tromper, les archives de France, par exemple, est-ce qu'on peut les trouver sur Internet ?
Oui, alors rien n'est centralisé. Archives de France, ça peut tromper. On peut se dire qu'il y a un site unique. C'est centralisé, oui, mais à l'échelle de chaque département. Donc les départements ont numérisé l'état civil ancien. Dans la plupart des cas, maintenant, jusqu'à François Ier, vous trouvez tout sur Internet, sauf quatre départements où rien n'est encore fait. La Seine-Saint-Denis, le Gers, l'Ariège et le Gard. Et
c'est payant ?
Non, c'est gratuit.
Mais Archives de France, c'est un site Internet ? Non. C'est le nom d'un site internet, non ?
Vous avez les archives nationales qui existent, oui, qui ont beaucoup de bases de données, notamment pour les Antilles ou La Réunion. Vous pouvez comme ça trouver les actes d'état civil de ces départements-là sans vous déplacer sur place. Mais ce sont les départements, donc vous tapez archives départementales du Finistère, archives départementales de tel département qui vous intéresse, et vous accédez aux archives en ligne avec l'état civil, les recensements, parfois le cadastre, parfois les recensements militaires, enfin des informations toujours plus vastes qui sont mises en ligne par les départements.
Alors on va continuer, grâce à vous, de feuilleter les vieux photos, vieux albums de photos de famille, là, comme ça, pour retrouver la trace de nos ancêtres. Tiens, par exemple, comment savoir si j'ai des nobles parmi des ancêtres ? Je suis sûr que j'en ai, voyons. Pourquoi doutez-vous ?
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On découvre le monde de la généalogie sur RTL grâce à l'historienne Marie-Odile Merniac à l'occasion du salon qui se tiendra ce week-end à Paris. On va trouver quoi sur ce salon, Marie-Odile ?
Presque 80 exposants, une soixantaine d'associations qui viennent de toute la France, donc avec leur base de données, des associations régionales, une dizaine de pays étrangers, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre, la Hongrie, la Pologne, je suis sûre que j'en oublie, Malte, le Maghreb, j'en oublie encore.
Donc venir sur un salon comme ça, c'est quoi ? C'est l'occasion de confronter ces infos à celles d'autres généalogistes, à des gens qui ont déjà fait un travail, c'est ça ? Alors, on peut arriver avec un nom en disant « je cherche telle personne ».
Oui, oui, on peut arriver avec un nom, on peut trouver en face de soi soit des associations qui ont des bases de données et qui vont vous donner peut-être 3, 4, 5 générations en plus d'un clic, soit qui vont vous expliquer comment chercher dans la région où vous avez vos ancêtres et quels sont les écueils à tel et tel endroit, soit des conseils pour débuter. Il y a un stand sur comment faire quand mon ancêtre vient de l'assistance publique, par exemple, parce qu'on peut tout à fait débloquer des situations. Comment retrouver des informations sur des ancêtres militaires, comment travailler dans les documents notariés, etc. Enfin, des choses après qui se déclinent par thème.
J'imagine que vous l'avez fait, votre arbre généalogique, Marie-Odile.
Oui.
Il remonte jusqu'à quand ? Jusqu'où ?
Alors, je l'ai fait quand j'étais lycéenne et en terminale. Allez, j'étais en 1500, j'étais en gros à François Ier sur la plupart des branches. Et puis après, comme on le disait tout à l'heure, hors antenne, ça prend beaucoup de temps. Et quand la vie professionnelle commence, que vous avez les bébés la nuit, le conjoint le soir et le travail dans la journée,
on s'arrête
ça
à
devient
François
plus difficile.
Et vous avez des ancêtres prestigieux. Quelles sont les découvertes que vous avez pu faire sur votre grande famille ?
Ah, en début d'émission, vous parliez de, vous disiez, va-t-on trouver à la fois un roi, un saint, un pendu ? Alors, j'ai Joséphine de Beauharnais, Sainte Thérèse de Lisieux, alors pas dans les ascendants directs, évidemment, ouais. Et Mesrine.
Ça me fait rire, pardon, mais c'est pas très drôle.
Les trois avec des ascendants communs au XVIIIe siècle, en fait.
Et ça, sinon... c'est pas rare comme ça.
En fait, non, non, ça n'est pas rare.
Plus loin, plus on se retrouve des liens avec des personnalités connues,
oui,
c'est
oui,
ça
tout à fait. Mmh. Alors, plus sympathique, il y avait Joël Robuchon. Ça, c'est très agréable. Alain Fournier, l'épouse de Félix Faure. Bon, un peu trompé, mais...
On a raconté l'histoire de l'Élysée il y a quelques jours et on a rappelé ce qui était arrivé à Félix Faure.
Alors, comment tout ça s'était terminé. Thomas a envie de savoir s'il a des nobles dans ses lointains ancêtres. Il y a un indice.
La particule.
Un nom en particule, par exemple. Ouais.
Non, non, non. Les Capétiens, par exemple, ils n'ont pas de particules.
Ah oui, c'est vrai.
C'est en fait, sur les noms à particules, seulement 25% sont des noms nobles. Les 75% restants sont des noms rappelant simplement une origine géographique ou une filiation. Vous vous appelez de Beauvais, vous vous appelez... Le nom de famille évoque un nom de terre, une origine, mais pas forcément une noblesse.
Donc ça veut dire qu'à l'inverse, si on n'a pas de particules dans son nom de famille, on peut quand même venir d'une famille noble.
Tout à fait.
C'est quoi les indices alors ? De l'aristocratie, de l'hérédité aristocratique.
Vous allez le trouver d'après les dénominations. Vous allez trouver un écuyer, vous allez trouver un chevalier, un comte, un baron, un prince, évidemment.
Écuyer, ça veut dire qu'on a, tout à fait. On a un homme de la famille.
Le premier grade, si l'on peut dire, de la noblesse.
Un noble homme, quand on trouve ça sur un registre paroissial, ça veut dire quoi ?
Simplement un titre honorifique. La personne était notable et honorablement connue.
Donc voilà. Ça ne veut pas dire forcément non. Une famille aristocrate.
Non.
Et une demoiselle ?
Non plus. C'est tout à fait, comment dire, une tournure de bienséance vis-à-vis d'une jeune personne qu'on trouve importante, d'une famille importante.
Et si je retrouve un blason ? Un blason sur soit sur une vieille, très vieille photo de famille, soit sur un document. Qu'est-ce que ça veut dire ? Forcément qu'il y a une famille noble quand même ?
Non plus. Tout va tromper.
C'est trop compliqué.
Tout trompe. Il était tout à fait possible autrefois à n'importe quel artisan de se créer un blason.
Ah oui.
Chacun pouvait s'en dessiner un. Vous aviez des confréries sous l'Ancien Régime qui dessinaient leur blason et qui déposaient des armoiries. Le fait de trouver des ascendants nobles, c'est intéressant parce que ça permet de remonter les siècles plus loin que pour l'ascendance normale.
Parce que leur arbre généalogique était très bien tenu. Merci beaucoup Marie-Odile Merniac. Je rappelle que vous êtes historienne, que vous dirigez les collections des éditions Archives et Culture. On va citer deux de ses livres, La généalogie sur Internet, généanet.org, des milliards d'ancêtres à portée de clavier. Et puis aussi Retrouver l'histoire d'une maison, c'est toujours chez Archives. Et culture.
Et moi j'embarque retrouver ses ancêtres bretons parce que vous m'avez donné envie. Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.